Il est 8h23 ici à Paris, c'est l'heure de la revue de presse de Norbert Navarro. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et à la une de la presse hebdomadaire, cette nouvelle secousse dans le landerneau politique en France, Gérard Darmanin, Sébastien Lecornu et Thierry Soler, sans surprise, rejoignent la République en marche.
Oui, ils ont franchi le Rubicon, étant rappelé que tous trois, il y a moins d'un mois, avaient été exclus du parti de droite Les Républicains pour cause de ralliement au chef de l'État, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, mais également le secrétaire d'État à l'écologie, Sébastien Lecornu, ainsi que le député dit constructif Thierry Soler, rejoignent en cœur la formation politique d'Emmanuel Macron, confesse-t-il au journal du dimanche. Gérald Darmanin dit au JDD avoir pris sa décision en entendant le candidat favori pour la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez, évoquer le grand remplacement culturel qui, selon Wauquiez, serait en train de se réaliser en ce moment en France. On ne peut pas simplement dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, il faut le combattre, déclare Gérald Darmanin au JDD. Toutefois, souligne le journal du dimanche, les trois transfuges n'ont pas convaincu le Premier ministre de rejoindre La République en marche, et donc Édouard Philippe se retrouve sans parti fixe, autrement dit SPF, à ne pas confondre avec SDF, nuance.
Une nuance du grain à moudre, en tout cas pour les journalistes politiques, lesquels ont le blues, tout du moins ceux qui sont accrédités à l'Élysée.
Oui, les temps ont changé depuis François Hollande, car Emmanuel Macron a modifié les règles. Les journalistes politiques, ce sont les pires, ils les jugent médiocres, nombrilistes, souligne TéléOps, le supplément télé du magazine L'Obs. Ils ont surtout l'énorme défaut de ne pas avoir cru en lui pendant la campagne électorale. Il serait aussi un peu trop porté sur la popole. La popole, vous savez ce que c'est, Juliette, c'est la politique politicienne, bien sûr, que Emmanuel Macron exècre tant. Fini le copinage et les petites confidences. Sommet de ne plus s'inviter dans les cuisines du pouvoir, la presse n'est plus la bienvenue au palais. S'adresser aux Français passe encore, mais se coltiner ses journalistes, sûrement pas, remarque TéléOps.
Oui, c'est ce qu'on appelle la verticalité du pouvoir macronien, Norbert.
Oui, et de ce point de vue, Macron est fidèle à l'esprit de la Ve République, estime le Figaro magazine, mais pas à l'esprit de sa campagne. Ses électeurs sont les cocus de l'histoire Macron, comme les ouvriers furent les cocus du mitterrandisme et les pieds noirs ceux du gaullisme. Mais la société que Macron promeut est le contraire absolu de son mode de gestion politique, une contradiction majeure qui risque de faire sauter le quinquennat aux premières tempêtes. C'est ce que cet hebdomadaire appelle l'ambivalence macronienne, un discours moderniste et une pratique archaïque.
Cette semaine, Emmanuel Macron se rendra au sommet Afrique-Europe d'Abidjan, sans attendre Alpha Condé, mais les points sur les i.
Oui, le président en exercice de l'Union africaine dit au JDD que les Africains n'ont pas besoin du planning familial, mais de développement. Nos agriculteurs ont besoin de leurs enfants pour la main-d'œuvre, lance le président guinéen dans cet hebdomadaire.
Et puis en France, la semaine a été marquée par un tweet posté, puis retiré par le socialiste Gérard Filoche, un tweet antisémite mettant en scène Emmanuel Macron.
Oui, à la suite de ce scandale, mardi dernier, le Parti socialiste a décidé d'exclure Gérard Filoche de l'avis des socialistes qui le connaissent le mieux. Ce dernier a fini par perdre le contact avec le réel depuis l'élection d'Emmanuel Macron, énonce Marianne. Il est entré dans une rage folle et s'est convaincu que les forces de l'argent dirigent la France. Et comme, pour se défendre, Filoche a prétendu qu'Hitler avait été choisi par le capitalisme et qu'être anticapitaliste, c'est être antiraciste, le canard enchaîné lui rétorque que Hitler aimait les bergers allemands et la bière, donc détester les bergers allemands et la bière, c'est être antiraciste. Fermez le banc.
Cette affaire intervient à un moment où, en France, le débat s'envenime au sujet d'un antisémitisme réel ou supposé d'une partie de la gauche.
Oui, et pour l'hebdomadaire Le Point, en tout cas, pas de doute, le cas Filoche en dit long sur la montée de l'antisémitisme dans les milieux d'extrême gauche. Alors que la plupart des élites ont baissé les bras, certes, celui-ci est plus ou moins conscient, gras, sournois, mais il est en marche, à nous de l'arrêter. Écoutons Manuel Valls, notre Don Quichotte national, rempart contre la haine et la bêtise, ou encore Mario Stasi, grand avocat, nouveau président de la LICRA, à l'évidence, ils sont de moins en moins seuls, veut croire Le Point. Selon un autre avis exprimé dans cet hebdomadaire, on assiste bien à une résurgence d'un antisémitisme de gauche en France. C'est bien connu, grince ce magazine, être de gauche, prémuni contre toute dérive antisémite. Allons donc. Si vous êtes trop jeune pour avoir connu les applaudissements gauchistes au massacre des athlètes israéliens à Munich par Septembre Noir en 1972, vous avez entendu parler de Ken Livingstone, Ken le Rouge, l'ancien maire de Londres, qui a été suspendu du Parti travailliste pour avoir proclamé qu'Hitler était sioniste. Ce type de dérapage se multiplie ces derniers temps au sein de la gauche islamo-compatible, estime Le Point.
Un anniversaire pour conclure, celui de l'hebdomadaire Les Échos Week-end qui fête son 100e numéro.
L'occasion, oui, pour le supplément magazine du quotidien économique français de poser 100 questions, comme par exemple celle-ci. Quel est le mot le plus prononcé sans être traduit ? Répond Juliette.
Aucune idée.
Eh bien, c'est le mot « ok ». Ou celle-ci, quelles sont les 10 choses qui vont disparaître pour toujours ? Réponse.
Toujours pas.
Eh bien, par exemple, les clés, je vais pouvoir vous donner les 9 autres. Mais ma préférée, c'est cette autre question. Quelle est la première ville francophone du monde ? Et là, je suis sûr que vous connaissez la réponse.
Kinshasa.
Bravo Juliette, 10 sur 10.
Merci. C'était la revue de presse de Norbert Navarro.